Nous accueillons tout de suite notre première auditrice. Bonsoir.
Oui, bonsoir Sana.
Bonsoir Karen. Comment
vous m'entendez bien?
Oui, nous vous entendons divinement bien.
Parfait.
Bienvenue, bienvenue à la Libre Antenne.
Je vous remercie. Bon, là, je vous avoue, je suis très stressée. Alors, je compte un petit peu sur vous, évidemment. Si j'ai des petits moments de panique, ou si je m'éparpille, ou si j'ai un peu de mal à me lancer.
Alors, rassurez-vous.
Il ne faut pas hésiter. Hein.
Oui, mais c'est tout à fait normal. Comme je le disais hier, s'exposer en direct, ce n'est pas une mince affaire, un exercice facile. Donc, prenez votre temps, respirez, je suis avec vous.
D'accord. Bah écoutez, globalement, comme j'avais dit à Kelvin au téléphone, génial Kelvin, hein, évidemment.
Ils sont formidables.
Ça, je n'ai pas eu Bastien encore, je n'ai pas eu cet honneur, mais peut-être dans quelques mois, mais Kelvin, exceptionnel aussi, gentillesse.
Alors, il précise que c'est lui qui a décroché hier soir. Besoin de reconnaissance,
oui.
C'est lui qui a répondu hier soir, voilà.
Exactement. Alors, bon... Comment vous dire? Il m'a demandé pourquoi je tenais à témoigner. Enfin, c'est pas témoigner, c'est très, très, très égocentrique. C'est me soulager en vous parlant. Parce que, effectivement, j'avais parlé en décembre dernier pendant une dizaine de minutes avec Sabine Marin. Mmh. Mais j'étais très, enfin, pas énervée, évidemment. Hein, je reste courtoise, mais j'étais super excitée à cause de ma corticothérapie. Donc, je parlais. Et là, je suis pas du tout dans cette optique-là. J'ai besoin de votre voix, de votre douceur, de votre réconfort. Et, si vous en êtes d'accord par rapport au quelque chose que je vous relaterai, mais il faudra peut-être me questionner un peu également, d'encouragement, parce que...
Bien sûr.
Voilà, je me sens un peu seule,
oui.
Tout en étant heureuse, à moitié heureuse de ma vie actuelle dans le cadre, le contexte où je me trouve, et qui est totalement voulu, et en même temps, morte de chagrin depuis 2 ans par des deuils infaisables. Et maintenant, je me retrouve avec papa, qui a 87 ans. Et ça commence comme maman, un petit peu. Et j'ai peur de mal faire, d'être trop dans le... Alors, j'ai peur de trop le materner, j'ai peur de trop le brusquer, j'ai peur de lui prendre trop d'autonomie ou de ne pas être là au moment où il risquerait une chute ou pire, quand je suis obligée d'aller faire les courses ou la pharmacie, par exemple. Je pense aussi avoir un sérieux problème avec la mort, globalement, comme beaucoup de gens, hein, mais
oui.
Voilà, je ne sais pas si vous avez besoin d'orienter, de détails, de questions.
Oui, forcément, parce que là, on a posé le cadre, c'est une vision plutôt globale de la situation.
Oui.
Maintenant, on va marcher en entonnoir toutes les deux, et puis on va voir,
d'accord,
effectivement, de pouvoir libérer la parole et de pouvoir vous exprimer tranquillement. J'ai noté quelques petites phrases. Donc déjà qu'effectivement, il y a beaucoup de peur,
oui,
qu'il y a manifestement une situation de dépendance dans laquelle vous vous êtes mise. Donc on va regarder ensemble quelle dépendance.
Oui,
il y a une dépendance.
Mes dépendances, pour être très honnête, c'est les êtres que j'aime, c'est-à-dire peu de monde. Pour moi, l'amour, c'est avec un grand A, si vous voulez.
Oui.
Je suis célibataire volontaire depuis maintenant plus de 18 ou 19 années, parce que seul m'intéressait de finir mes jours auprès de mes parents. Et nos chats, qui sont comme mes enfants, j'ai jamais voulu d'enfants parce que je voulais faire des chats, excusez-moi. mes dépendances, pour être très honnête, elles sont cigarettes, je ne conseille à personne. Et cannabis, je ne conseille à personne, mais je suis d'une belle année comme vous, 72.
D'accord, nous avons
et tout récemment, voilà, mes 49 ans, et je fume de l'herbe depuis mes 18 ans, tous les jours non-stop, et je n'ai jamais bu une goutte d'alcool, je ne supporte pas, c'est mon meilleur anxiolytique, ça m'a fait diminuer beaucoup les anxiolytiques, et ça me, c'est mon carburant, voilà. Je fume toute seule, hein, j'ai jamais fumé en compagnie d'eux, ou voilà.
D'accord.
Ça, c'était juste pour le côté addiction.
Voilà. Ce qui est pas mal. Hein.
Pardon, excusez-moi de vous avoir...
Non, mais je, vraiment, rassurez-vous, je vous l'ai dit, vous exprimez-vous. Et puis moi, entre-temps, je vous interromprai, enfin pas vous interromprai, mais je vous questionnerai au fur et à mesure.
Et n'hésitez pas, parce que je peux être pénible quand je...
Non, tout se passe bien, Karen, tout se passe bien.
C'est vrai qu'il y a vraiment un petit sentiment de solitude, non, parce que je suis au contraire très bien dans cette solitude. J'ai quitté Paris il y a 6 ans et demi où je vivais seule avec mon chat, décédé là-bas dans des conditions, voilà. J'ai pas eu le courage de l'euthanasier, c'était... Et donc, je suis venue, du coup, j'ai tout lâché, mes petits bénévoles, mon travail, mon boulot.
Vous habitiez où, Karen ?
À Paris, 17e, Porte d'Anières.
Et maintenant, vous êtes
la
où ?
La Porte de Clichy. Alors là, je suis dans une petite ville des Landes.
D'accord.
Et c'est le bonheur, mais absolu, c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire que là, au moment où je vous parle, la nuit commence à tomber. C'est malheureusement encore 24 degrés. C'est un petit peu chaud avec ma Minerve, et puis j'aime pas la chaleur. Mais j'ai déjà 2 hérissons qui viennent de sortir, à qui j'ai déjà mis de la petite bouffe en bas et de l'eau fraîche. Et j'attends de voir les chauves-souris d'ici une demi-heure. Et si papa s'est couché en dessous de moi, tout, donc là, je suis sereine et j'admire les arbres et tout ce que j'aime. Voilà, la nature.
Alors, vous avez démarré votre témoignage en disant « Je suis à la fois heureuse et en même temps... C'est compliqué, c'est un cadre dans lequel je suis morte de chagrin.
Oui, j'ai l'impression d'être survivante à 100% à moitié de moi, et l'autre moitié de moi est morte. Je suis morte à moitié il y a un peu plus de il y a bientôt 2 ans.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ce qui s'est passé, c'est que bon, depuis que je suis toute petite, hein, évidemment, même intra-utéro pour une raison précise que je pense vous voudrez savoir, qui sera résumée en une phrase, c'est très concret. Mais j'ai toujours, depuis l'âge de 6-7 ans, compris que mes parents allaient mourir un jour et me dire j'ai papa et maman, je ne peux pas trouver autre amour de quelque sorte qu'il soit plus parfait, plus complet et que celui que j'ai auprès de mes parents. C'est-à-dire jamais je ne leur ai menti sur quoi que ce soit, et pourtant j'ai fait quelques petites conneries étant adolescente, très léger, hein, voilà. Mais voilà, ma vie, c'est mes parents. J'ai toujours voulu rester près d'eux. Je n'aurais fait qu'une coupure de quelques années seule à Paris quand eux ont quitté les Yvelines pour venir à la retraite dans les Landes.
Oui.
Et du coup, je suis heureuse à ma place ici maintenant, depuis 6 ans et demi. Bâton de vieillesse absolument volontaire.
Oui.
Et heureuse parce que, mais alors morte à moitié, parce que sur papa et maman, il n'y a plus que papa.
Voilà,
parce que
donc,
maman,
voilà
est
votre
la
mère.
Femme de ma vie.
Oui.
La femme de ma vie, vraiment. Il y a 3 ans, mon frère, un de mes frères, Nice, pardon, dont j'étais le plus proche, qui était le plus jeune après moi, c'est-à-dire 52 ans, est décédé du côté de La Rochelle d'une récidive de tumeur du cerveau qu'il combattait depuis 10 ans. Mm. Il devait venir nous voir et puis voilà, il y a eu crise d'épilepsie, ça s'est dégradé très vite en 24 heures. Donc il n'a pas pu venir dire adieu à ses parents ni à moi. Et moi, je ne pouvais pas bouger non plus parce que je n'ai pas de permis et je ne pouvais pas laisser papa et maman.
Oui, oui.
Alors, maman, je m'en occupais déjà sur les 6 ans et demi, depuis 5 ans intensivement. Papa, pas du tout à l'époque, parce que maman était diabétique, dépressive, anxieuse de nature comme moi, et n'avait plus qu'un rein, et était en déambulateur, enfin, toutes ces choses que j'avais mises en place. Et la mort de son fils adoré, l'a entraînée dans une démence qui n'était pas du tout de l'Alzheimer, ni du corps de Lévy, bien qu'il y ait eu, qui a été infirmé à un bad scan, mais bon, il y a eu des quelques scènes. Elle est partie en fait dans 30 années en arrière. Et la nuit, elle dormait dans la chambre en dessous de la mienne. Je l'entendais appeler papa, papa. Elle me prenait pour son père, que je n'ai jamais connu. Enfin bon, elle délirait, elle a succombé au chagrin. J'ai été contrainte de l'envoyer à l'hôpital, le plus proche évidemment, puis ensuite, sans pouvoir du coup aller la voir dans une unité cognitivo-comportementale à Mont-de-Marsan, puis à Dax, qui fait quand même 2 heures de route. Nos ambulanciers pouvaient m'emmener gracieusement, bénévolement, sans problème quand ils avaient l'occasion, mais il se trouve qu'au bout d'un quart d'heure de trajet, je vomis, de type je suis petite, et puis ça a été le moment où malheureusement, j'ai déclenché un cancer du sein, carcinome canalaire infiltrant. Donc, j'ai été contrainte en une nuit seulement d'accepter qu'on m'enlève ablation totale du sein droit et qu'on me cure des selles avec 8 ganglions métastasiques, enfin mauvais. Mais par contre, comme j'étais à m'occuper de maman et pas pouvoir non plus maintenant laisser papa tout seul à la maison, je vois l'oncologue tous les 3 mois, hein, à la teste, mais je signe des décharges. J'ai toujours refusé tout traitement, rayon chimio, tout ça. Donc, j'ai beaucoup de chance par rapport à ce cancer, parce que je devrais métastaser déjà depuis quelques mois, et pour le moment, je ne métastase pas. Voilà. Ce qui me fait plus souffrir, c'est moi. Wow. Mes 2 vertèbres chevauchées, ma hernie discale depuis 5 ans à porter les courses à pied, à faire tout seul, et puis la névralgie cervico-brachiale, dont beaucoup d'auditeurs ont parlé ces derniers soirs, c'est effectivement très douloureux. Voilà. Quand maman est décédée, comment vous dire, je l'ai récupérée en HAD.
Donc c'était il y a combien de temps le décès de votre maman? Il y a 2 ans. Hein.
Ce sera le 24 juillet, la date de décès. Oui. Et hier, ça aurait fait 2 ans qu'elle était rentrée à la maison, inconsciente, hein, pour y mourir en 7 jours et 7 nuits. Quand je l'ai envoyée dans ce centre spécialisé, elle faisait 92 kilos et ils ne m'ont pas dit qu'elle avait fait des AVC. Ils ne m'ont pas dit qu'elle avait fait une chute, qu'elle était... Voilà. Ils me disaient, oh, une bonne journée, une mauvaise journée. Ils l'appelaient du coup 3 fois par jour. Mais c'était compliqué de parler avec elle, quoi, parce qu'il y avait du bruit autour d'elle. Et puis, c'était le moment de bouffer, c'était de l'appeler, d'essayer de lui faire transférer des affaires, des vêtements qui avaient mon odeur, des choses comme ça. Oui. Mais sur les 3 derniers mois, elle ne parlait plus beaucoup et les infirmières me disaient que les vêtements revenaient tout déchiquetés. Et en fait, maman m'avait dit une des dernières phrases... viens me chercher, Franck, c'est papa. Venez me chercher, ma chérie, je crois que je ne vais pas tenir longtemps. Et elle mangeait son linge, en fait. Elle trouvait son linge comme une grosse mythe. Et elle m'avait soufflé au téléphone, c'est pour me sentir, me mordre et me sentir encore vivante. Parce qu'avant de l'envoyer là-bas, j'avais tout essayé ici. Le lit Alzheimer, elle l'a défoncé en une nuit. Je devais l'enfermer, je devais appeler les pompiers toutes les nuits pour m'aider à la relever.
Très compliqué.
Et la voir se faire du mal, c'était insupportable.
Ah oui, vraiment.
Et bon, elle est revenue sans alimentation, avec juste un patch de morphine et de la perfusion d'hydratation en pleine canicule le 17 juillet dernier, il y a 2 ans, pardon, j'ai l'impression que c'était hier. Elle a tenu 7 jours et 7 nuits et maniaque du ménage que je suis avec mes tocs, et je passais l'aspirateur dans le couloir au lieu de lui tenir la main parce que j'étais morte de trouille de la voir. Maman, ne soyez pas choquée, Sana, maman repose dans son urne, dans sa chambre, en dessous de chez moi, avec l'accord à l'époque du maire, des pompes funèbres qui m'ont ramené. Je lui fais un lit d'été, un lit d'hiver, je lui cueille des coquelicots dès qu'il y en a, des bouquets frais, je lui parle beaucoup, je lui fais des câlins. Mais
c'est
musique.
Karen, je vous rassure, il n'y a jamais de jugement. C'est vraiment une écoute bienveillante. Vous voyez, vous avez parlé vous nous avez dit que vous fumiez de l'herbe depuis 18 ans. Ce n'est pas à moi de donner un jugement. C'est vraiment...
Je n'en fais pas l'apologie pour autrui. Hein. Je fume toute seule parce que ça me convient. Je ne fais aucunement l'apologie non plus.
Voilà, on sait que c'est interdit, je vous rassure, il n'y a pas de jugement, même si c'est interdit. Bon, maintenant, d'avoir votre maman près de vous, oui, il n'y a rien de choquant. C'est un choix, c'est votre choix. Maintenant, il y a un sentiment de culpabilité chez vous, parce que vous avez démarré avec cela, en disant, j'espère ne pas mal faire avec papa.
J'ai l'impression d'avoir tué ma mère et j'ai pas envie de faire la même chose avec papa. En prenant des mauvaises décisions au mauvais moment, sous l'effet de l'épuisement total, ou du stress, ou du chagrin. Et pour vous dire, j'ai eu un deuil très très violent il y a maintenant 2 mois et demi. En fait, c'était le week-end de la Pentecôte.
Oui.
C'est vraiment récent pour moi. Parce que je vous parlais de mon chat à Paris avec qui je vivais seule, un Maine Coon que j'avais sauvé d'un trafic. Et pendant 14 ans, j'ai vécu seule avec lui. Et c'était super, sauf que bon, studio à Paris pour un chat
aussi grand.
Le Maine Coon est très adapté. Oui. Et puis c'était le centre de ma vie, ce chat. Mmh. Il n'a pas manqué d'amour. Mais j'ai mis 6 ans avant de pouvoir... Enfin, j'ai mis 3 mois avant de remanger et de sortir de mon studio. J'ai mis 6 ans avant de pouvoir réécouter de la musique, qui est la passion de ma vie avec le foot. Et j'ai développé une thrombopénie isolée suite au choc émotionnel. Et là, mes dernières analyses montrent depuis 2 mois et demi que ma chatonne que j'avais prise suite au décès de mon Maine Coon, qui s'appelle Miss Grouy.
Comment elle s'appelle ?
C'était une grosse chatte, Miss Grouy, parce qu'elle miaulait pas, j'ai des grouilles.
Ah oui,
alors je l'appelais chatonne. oui.
Chatonne ou Miss Grue.
Je n'étais pas attachée très vite au début parce que je l'ai adoptée tout de suite à Paris quand mon Maine Coon est décédé et j'étais tellement dans le chagrin que je ne la câlinais pas comme il fallait. Mais elle avait 9 ans et demi et depuis 6 ans, elle était heureuse ici, épanouie. Mmh. Toujours en surpoids alors qu'elle mange très peu. Elle n'a jamais voulu autre chose que des croquettes. Mais elle avait un surpoids naturel. Mmh. À la dernière pesée, elle faisait 8,5 kg il y a 4 mois au rappel de vaccin annuel. Mmh. Mais le week-end de la Pentecôte, notre vétérinaire était fermé. Les urgences, impossibles de se déplacer, impossible. Mmh. Et pendant 3 jours, j'ai passé 3 jours et 2 nuits au téléphone avec les médecins de garde vétérinaires à Perpète-les-Oies qui m'ont dit d'abord alors, de lui mettre du microlax parce qu'elle constipait beaucoup, de lui faire des massages assez appuyés sur le ventre de telle façon, etc. Et pour m'entendre dire la veille de l'euthanasie, c'est-à-dire le dimanche soir, que probablement ce qu'on m'avait indiqué n'était pas à faire. Donc là, j'ai culpabilisé aussi. Mmh. Et le mardi matin, quand j'ai appelé le vétérinaire, au lieu d'avoir le réflexe de l'emmener, alors que c'est 3 minutes à pied à l'ouverture du cabinet du véto, qu'il aurait prise tout de suite, je l'ai appelé à midi en lui disant, en hurlant, venez l'euthanasier parce qu'elle souffrait vraiment. Il ne l'aurait pas fait, il l'a vu. Mais il m'a quand même dit, pourquoi ne me l'avez-vous pas amené ce matin à l'ouverture ? Et là où je vous dis que j'ai un rapport avec la mort spéciale, et je m'excuse encore, c'est que cette chatte, elle est pour le moment dans le congélateur du frigo de papa. Parce que je ne peux pas l'enterrer, je veux la câliner, ce que je fais 3 fois par jour, mais avec la chaleur, c'est un congèle qui a 18 ans, il faut que je mette du scotch, du chatterton, plein de trucs. Et je cherche à bas coût un petit congélateur, mais j'en ai déjà acheté un, mais bon, il est trop petit parce que manque de bol, chatonne, elle est longue, elle est grande. Le vétérinaire m'a dit qu'il n'y avait aucun risque hygiénique, tant que c'était en congélateur. Donc je lui ai mis son petit doudou canard sous sa tête, elle a les yeux ouverts, et je me mets le nez dans le poil qui, lui, ne gèle pas, par contre, et quelques secondes pour stopper les crises d'angoisse de larmes terribles qui me donnent envie de mourir 4-5 fois par jour. Ça me fait du bien et j'ai hâte qu'elle remonte dans ma chambre, dans sa chambre,
quand
j'aurai trouvé ce que j'appelle son cercueil réfrigéré.
Je comprends.
Je ne peux pas me séparer des personnes que j'aime.
Oui, c'est exactement ça. Je comprends. Alors, vous savez, ça me rappelle une patiente que j'avais eue qui adorait les Yorkshire. Et en fait, elle en a eu 5 et elle les a congelées et elle les avait avec elle dans son congélateur. Et donc, elle expliquait... Vous n'êtes pas un cas isolé.
J'étais vraiment la seule à paraître malsaine ou tordue. Ça me fait du bien d'entendre que...
Alors voilà, c'est pour ça...
Et elle les a gardées.
Elle les a gardées jusqu'à, en fait, ce que nous travaillons, non pas la mort, mais le deuil. Chez vous, manifestement, il y a une relation au deuil qui est à travailler, Karen. Et elle est à travailler parce que vous avez toujours vécu à travers... l'amour de vos parents, l'amour que vous procurent également et vous donnent vos animaux. Au niveau de votre vie sentimentale, comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui ?
Écoutez, adolescente, j'ai bien profité de la chose, on va dire. Et puis ensuite, j'ai rencontré tout ça encore dans les Yvelines quand je vivais avec mes parents. J'étais donc sur la fin de mon bac et début de fac, à Nanterre. Et puis je supportais pas de l'idée de sortir avec quelques potes pour laisser mes parents devant la télé un jour de l'an. J'étais tellement mieux auprès de mes parents. Je sortais peu, mais il se trouve que j'ai rencontré un Algérien merveilleux, sans papier. Alors avec le recul, j'ai vraiment voulu en faire davantage un cas social qu'un mariage longue durée. C'était pas du tout un mariage blanc parce qu'on s'est connus 3 ans avant de se marier. Le juge au tribunal, lors de leur conduite à la frontière, nous a seuls non reconduits à la frontière en ce qui concerne mon fiancé, en disant je vous serre la main, mariez-vous vite et soyez heureux, il n'y a pas de problème, ce qu'on a fait. Et puis, au bout de 7 ans en tout de relation, bien que ce n'était pas du tout un extrémiste ou quoi que ce soit, c'était compliqué, il était toujours à ramener ses copains à la maison. Pas problème de religion, mais c'était vraiment plus, je sentais de toute façon que je ne pouvais pas être épanouie comme je le serais près de mes parents, que ce n'était pas là ma place.
Ça a duré combien de temps ?
Oui. En tout, le mariage 4 ans et 3 ans auparavant, 7 ans.
7 ans, d'accord.
Et c'est resté, lui, il est resté maintenant sur Paris. Mm-hmm. Il est marié et il a 4 enfants merveilleux.
Oui, vous avez encore des contacts,
deux,
ouais.
Trois fois.
Très bien.
Oui, c'est adorable. Il était très, très aimé par les parents, par toute la famille d'ailleurs, enfin, toute la famille, ouais. Par mes parents et mes frères et sœurs à l'époque. Voilà. Et depuis, depuis mon divorce en 2002, rien, mais parce que aucune envie, mais vraiment aucun intérêt. C'est d'un coup, ça n'a rien à voir avec quelque chose de purement sexuel, du type, je sais pas, frigidité non, c'est pas là où je prends mon plaisir. Mon plaisir, c'est de veiller à mes ouailles, de me sentir bien avec ça, de m'occuper du jardin, d'écouter tout ce qu'il y a de football à la qui existe parce que je suis passionnée de foot comme dans toute la famille, la musique beaucoup et enfin, voilà d'autres choses, mais pas ça.
Karen,
il y a
juste quelque chose que j'aimerais quand même prenez soin de vous. Ce qui m'embête quand même dans ce que vous nous partagez, c'est vous ne vous soignez pas.
Mais si, enfin, je suis sous traitement anxiolytique antidépresseur depuis que j'ai 20 ans et je suis suivie par un vrai médecin de famille depuis 24 ans, qui avait été médecin de mes parents.
Mmh.
Et il m'a fait venir à moi une équipe qui s'appelle EMPP. Alors c'est une équipe de mobilité précarité psychologique qui se déplace donc de là où j'habite, de Morsinx, donc ils font... Mmh. Ce sont des bénévoles qui dépendent de l'hôpital de Mont-de-Marsan.
D'accord.
C'est un infirmier chevronné, une assistante sociale et une jeune psychologue, Laurie, adorable, qui vient d'ailleurs jeudi prochain, le matin, qui viennent... alors ça devait être un suivi à peu près, ils venaient une fois tous les trois mois, maintenant, depuis le décès de maman, ils viennent une fois par mois au moins, ici, à la maison, passer une heure avec moi. Mais ils n'y arrivent pas. Ce problème de deuil et de culpabilité. Alors, ils savent d'où ça vient, hein, le choix de vie, de vivre auprès de mes parents et de quitter cette vie avec le dernier des deux. C'est des circonstances, pas de ma naissance, mais des jours qui ont précédé. Maman était infirmière à l'hôpital psychiatrique de Pau. Elle a eu la nuit une surveillance en 72, donc de nuit, elle surveillait tout le bloc psychiatrique la nuit toute seule. Elle était enceinte de moins de 8 mois, elle s'apprêtait à s'arrêter.
Mmh.
Un patient s'est détaché, l'a poursuivi pendant des heures la nuit avec un couteau et a essayé de la poignarder. Il n'y a pas de poignardée, mais il y a eu effleurement. Et le fœtus que j'étais quasi déjà formé a eu toutes les répercussions. Je suis née un mois après à terme, mais j'ai toujours connu ma mère du jour de ma naissance, qui n'a plus jamais retravaillé et qui, elle, a été suivie par un psychiatre et qui faisait crise d'angoisse sur crise d'angoisse.
Ouais.
Je pense que le lien vient forcément de là.
Oui, forcément, on y pense. En tout
par
cas,
contre, l'amour que je leur porte et mon choix de vie, il vient tout simplement de ce qu'ils sont mes parents.
Ouais.
C'est-à-dire exceptionnel. Exceptionnel.
Donc, la mort qui est très présente autour de vous, et je me disais, mais que plutôt que de combattre les ténèbres, j'aimerais bien que vous puissiez allumer les lumières. Et allumer ces lumières, c'est la vie qui vibre autour de vous.
Elle est superbe, la vie, elle est magnifique.
Oui, absolument. Alors
magnifique.
Attention, je ne suis absolument pas en train de vous dire que votre bonheur dépendrait d'un compagnon. J'ai juste une question à vous poser. Votre papa a 87 ans, manifestement, il a une santé qui est très très fragile.
J'espère nous porter 3 ans.
Je vous
moi,
le souhaite.
Je pars avec lui, mais ça, c'est depuis que j'ai 7 ans dans ma tête. J'ai tout ce qu'il faut en anxiolytique non périmé, un stock que je fais depuis mes 18 ans. J'ai 42 boîtes. Mon médecin, tous mes médecins, ma psychologue est au courant. Pour ce qui est de mon psychologue, tout le monde. Personne n'a jamais pu me faire changer d'avis. C'est un choix de vie. Et j'aurai une vie pleinement qui n'aura jamais manqué d'amour, ni de valeur, de tolérance et d'amour. Le problème, c'est qu'effectivement, papa a 87 ans, j'en ai 49, ça m'est égal mon âge. Je voudrais juste que maman soit encore là, je voudrais que ma chatonne soit encore là, pour elle, parce qu'elle n'avait que 9 ans et demi. Et je voudrais surtout pouvoir tenir papa encore 3 ans, 4 ans.
Et donc là, je vais vous poser...
Il est très courageux. Hein.
Mais je vous pose la question qui peut vous perturber. C'est bien que ça frotte un petit peu. Il se passera quoi après? Elles sont où vos lumières?
Pardon?
Elles sont où vos lumières? Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui se
passera
après?
Moi, je rejoins papa, je donne à mes neveux et nièces nos directives de vie anticipées et on finit tous dans nos urnes du côté de La Rochelle, voilà.
À 52 ans?
Ou l'année prochaine si je métastase avant, ce que j'espère pas, parce qu'il faut que je m'occupe de papa, évidemment. Ça, c'est ma priorité.
Donc, est-ce que
pour
vous
le
êtes
moment, j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Hein.
Donc, vous êtes en train de nous dire que le jour où... Enfin, c'est presque une programmation.
Mais c'est pas triste et c'est pas. Là, pour le coup, c'est moins choquant à mon sens que ma chatonne au congélateur parce que c'est quelque chose qui est en moi depuis mes souvenirs, les souvenirs concrets qui remontent à l'âge de 3-4 ans. J'avais in utero forcément quelque chose et bien évidemment ça s'amplifie avec le temps, ça s'est amplifié parce que j'ai des parents mais formidables. Formidable, c'est la tolérance, l'oubli de soi pour tout donner pour les autres. C'est je peux pas vous dire, ce serait trop long. Et voilà.
Je
comprends. Suis pas la seule à avoir cette chance-là, mais je l'ai vraiment quoi.
Je comprends et en fait à chaque fois quand j'entends ces choses-là s'exprimer, à savoir voilà j'ai des parents formidables, je me dis forcément que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, donc que vous êtes vous-même formidable et on a besoin de gens comme vous. De gens pour veiller sur nous, pour continuer à nous accompagner. Et puis en même temps, j'aimerais tellement que vous ayez des personnes qui veillent sur vous également. Est-ce que vous avez des amis?
Oh, papa le fait merveilleusement.
Mais Karen, puis, des amis.
Toutes les équipes médicales,
c'est une équipe médicale. Est-ce que vous avez des amis, Karen?
Alors j'en ai une à Paris, que j'ai connue malheureusement 2 ans seulement avant de quitter Paris. Mais c'est tous les jours, hein, les petits textos ou le petit est-ce que ça va, voilà. Et puis, en fait, non, parce que ce que je considère comme amis sont des gens que j'aime vraiment, pas du même amour que mes parents et mes chats, mes ouailles, comme je dis, ma vie. Mais j'aime nos aides ménagères, nos aides soignantes, nos infirmières, nos médecins. Je les aime parce qu'ils sont juste extraordinaires. Nos ambulanciers sont formidables. Ils nous kiffaient, maman, papa et moi, et ça continue, ils nous portent, ils nous. Chapeau, vraiment chapeau bas à eux et merci. Et c'est ça ma deuxième famille amicale. Mes amis sont les amis de mes parents et leurs enfants et qui peuvent venir nous voir une ou deux fois par an. Bon, moins parce que je suis dans l'hypervigilance avec le Covid. J'ai eu mon troisième et dernier rappel Pfizer avant-hier.
Oui, très bien.
Et troisième parce que les corticoïdes, donc pas de défense immunitaire.
Mm-hmm.
Papa, je l'ai fait vacciner il y a 4 mois, il a eu ses 2 doses. Et comme moi, il a très mal accusé la deuxième, mais bon, il faut le faire, hein. Enfin, moi, je n'allais pas le laisser dans cette nébuleuse.
Non, vous avez raison.
Ouais. Sans m'y coller derrière, ça n'a aucun sens.
Bien sûr.
Et je me masque au réveil, c'est-à-dire que je me couche la nuit vers 4-5 heures, quand j'ai fini le linge, les repas à préparer, les post-it, tout ça, pourquoi pas. Et puis, je me réveille vers 11 heures, et à partir de là, je suis masquée, et j'enlève le masque, y compris dans la maison ou dehors. Enfin, papa ne peut plus trop sortir dans le jardin ou descendre les marches avec moi. Je tombe le masque à 21h quand papa se couche. Alors ça, plus la misère, plus la chaleur.
Ouais. Et adopter un autre animal, est-ce que c'est quelque chose qui...
On en a 6 qu'on a recueillis. Les 2 derniers ont incrusté le jardin il y a 5 mois. On ne les fait pas encore rentrer parce que monsieur Leboule n'est pas stérilisé. Petite pseudo est adorable. D'après le veto, elle peut rentrer dans la maison. Mais je ne suis pas prête par rapport à ma chatonne.
Mm-hmm.
On a aussi 6 chats number 5 qui sont des chats recueillis, abandonnés ou maltraités et qu'on a tout de suite pris quand ils avaient 1 an ou 2 ans, depuis 6 ans maintenant. Et la petite dernière qu'on a trouvée, qui venait de naître dans un hangar sauvage à 2 pas de chez nous, Snow, elle est en train de dormir sur l'oreiller près de moi là. C'est une petite peste totalement bipolaire, pire que moi, mais c'est un amour. Elle ne sort pas du tout. Elle ne veut même pas sortir, la maison est grande et elle nous porte. Et quand on fera rentrer petite pseudo, quand je serai prête, dans quelques jours ou semaines, elle aura enfin retrouvé une congénère puisqu'elle dormait dans les pattes de ma chatonne. Et là,
Karen,
elle est seule aussi, je pense.
Karen, j'ai une question à vous poser. Je vous laisse le temps de la petite pause musicale. Je vous la pose juste avant. Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis, c'est-à-dire rester parmi nous une fois que votre papa sera parti? Et on envoie la musique.
Sana Blanger est à votre écoute sur Europe 1.
Juste avant cette superbe pause musicale avec Serge Gainsbourg, nous étions et nous sommes toujours avec Karen. Karen, je vous ai donc posé la question de savoir qu'est-ce qui ferait que vous changeriez d'avis. Voilà. Quel événement pourrait vous faire changer d'avis, changer de destin, de trajectoire sur...
Alors évidemment, très, très sans filtre comme je suis, spontanément, rien. Mais si, une chose quand même, mais ce serait, c'est impossible, et ce serait, alors ce serait continuer à vivre où je suis là, avec mes arbres, avec mes hérissons, etc., et mes parents dans leur chambre, dans leurs urnes,
oui.
et nos chats restant à m'occuper, c'est ça, et dans le déni, pas le déni qu'ils sont morts, quelque part c'en est, parce que je ne mets pas leur couvert à table, mais si je me retrouvais toute seule, papa décédé, je pourrais lui survivre à condition qu'il repose dans sa chambre aussi et que je continue, comme je le fais avec maman, à parler beaucoup, comme s'ils étaient là, présents, à tout leur raconter. Et, mais ce n'est pas possible parce que malheureusement, on est locataire et la propriétaire met papa au tribunal parce qu'elle récupère sa maison le 7 janvier prochain pour... Il n'y a rien à dire, c'est son droit total, hein, c'est la maison de son enfance. Et c'est pour l'habiter, parce qu'elle a payé sa retraite il y a un an. Le problème, c'est que nous, on n'a ni la force ni l'envie de déménager. Et on ne peut pas avec les chats. Le veto a confirmé que 4 sur 6 ne sont pas adaptables dans un autre logement, même avec petit jardin. Ils ne peuvent pas du tout être déplacés de leurs habitudes ici, le jardin. Donc, on la laisse aller au tribunal et on va gagner du temps. J'en avais parlé avec Olivier Delacroix, mais bon, ça, on n'en reviendra pas dessus. Parce que voilà, ce qui me ferait changer d'avis, c'est de pouvoir rester dans cette maison, ce jardin, avec chaque mur où reposent les tableaux que maman peignait, qui sont sublimes, les photos d'eux que j'ai partout. Et voilà, c'est ça. Je serais continuer la vie, comme je l'ai là avec papa, sauf que je lui parlerai, au lieu de lui parler en vrai, je lui dirai, papa, je te tiens au courant s'il y a une séance de pénalty, je parlerai à son urne et je serai très gaie. J'écouterai France Musique tous les dimanches avec lui pour le classique, et j'écouterai la variété avec maman le reste du temps. Et voilà, c'est ça. Ce serait ça, mais c'est pas possible. Et puis voilà, c'est tout.
Donc, Alors, c'est pas possible uniquement si vous avez décidé que c'était impossible. Ça me rappelle
oui,
vraiment
mais
cette
c'est
phrase
un choix de vie.
De Philippe Croizon qui dit l'impossible, c'est vous. On est complètement dedans là, Karen. Vraiment, j'espère que vous allez continuer à cheminer avec...
Non, parce que lui, il avait une volonté, une revanche sur la vie à prendre. Il l'a prouvé pour faire des choses mais sidérantes avec ses handicaps, son handicap physique. Et
tout à fait.
Je pense qu'il a vraiment mené un combat pour la vie, en fait. Un combat pour la vie, pour lui. Moi, je ne suis pas dans le combat du tout. Je suis dans là, je suis à ma place, je suis bien. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Mais je suis consciente que tout de même, de par l'âge de papa, l'échéance s'approche. Et tout ce que je veux, c'est ne pas, entre guillemets, pardon pour le mot, j'essaye de me retenir, je ne veux pas merder ces quelques années, moi ou j'espère années qui nous restent, je veux qu'elles soient bien pour papa, mieux que pour maman, parce que si j'avais su, mon Dieu, je l'aurais gardé là, quitte à finir à ne plus dormir du tout, mais je l'aurais fait, je vous promets, je ne savais pas.
Alors c'est très rare hein, ce que je vais dire, mais je baisse les armes. Je vais respecter votre volonté, ma chère Karen. Je comprends.
Il la comprend. Ah, oui. Il n'y a rien de triste là-dedans.
Absolument. Et je comprends que c'est votre équilibre. Je comprends que ça contribue à votre bonheur. Et je dirais que c'est ce qui est le plus important au final. Maintenant, il y a encore quelques années devant vous. Et j'espère que voilà, ça, vous aurez le temps de la réflexion. Chaque chose dans la vie a sa bonne raison d'être. Et même si on ne la comprend pas toujours, j'espère que par la suite, vous donnerez du sens à votre vie. Voilà.
Mais s'il y a quelque chose dans l'au-delà, j'en aurai forcément puisque je serai auprès de mes parents. C'est au cas où il y a quelque chose que je puisse leur tenir la main tout près d'eux et qu'on continue là-haut ailleurs. Et par contre, je précise vraiment, c'est pas du tout triste, même si ce sera tôt pour moi, c'est pas triste. Ce serait triste si je vous avais dit, Sana, et aux auditeurs, je m'excuse d'être très longue, après je vous promets, je vous laisse tranquille,
non,
je raccroche.
C'est
juste, je voulais juste préciser, ça pourrait être perçu comme triste, y compris pour moi, si je jamais je disais, bon, voilà, je vais mourir assez jeune parce que du fait de, voilà, avec papa et tout. Mais bon, j'ai des regrets dans la vie, j'aurais voulu faire ci, ça, j'ai pas été super heureuse. Mais non, je vais partir peut-être tôt, mais avec une vie, mais qui aura été surremplie de bonheur à chaque instant, d'amour, de... Voilà, c'est ça, c'est aucun regret, aucun remords. Et puis, sauf la fin de vie de maman et ouais. Voilà.
Bon. Et puis, quand on est croyant, parfois... Pour certains, on se dit qu'on se retrouve toujours après la mort, donc...
Bon. J'aimerais être croyante, alors j'envie ce qu'ils sont et j'essaye d'aller... Mais bon, voilà. Bon. Une dernière chose, est-ce que je peux encore, bien que ça fasse bientôt 2 ans, et beaucoup moins pour Chatton, continuer, comme on dit, à laisser couler les émotions telles qu'elles viennent, c'est-à-dire des torrents de larmes, des plis en deux. Et est-ce que c'est pas égoïste si après je me force à faire un petit break en me disant, bon, là, ok, ma petite clope, ma libre antenne, ma fenêtre, ma petite tisane, mon coca, mon soda zéro, et j'essaye de penser à autre chose pour juste respirer, pour pas mourir. C'est pas égoïste que je mette de côté moment.
C'est de l'égoïsme sain. Vous en avez besoin.
D'accord.
Ouais, vous en avez besoin.
Mais c'en est quand même. Ah, merde, c'en est quand même.
Ouais, vous en avez besoin. Ce qui reste encore... rassurant, c'est que vous avez toute une équipe qui vous entoure et ça, moi, personnellement, égoïstement, je dirais, ça me rassure pour vous. Oui, c'est pour ça que je vous disais, j'aimerais vraiment que vous preniez soin de vous, que vous vous octroyiez ces moments de respiration, ces sas de décompression.
C'est la nuit, mais je le fais. J'ai pas le temps, j'en ai, mais c'est un bonheur. J'ai toujours vécu inversé, de toute façon, avec vous.
Oui, bon, c'est votre rythme, voilà, c'est important d'avoir ce sas de décompression, non pas en vous disant je me prive, ou au contraire, c'est je me remplis d'énergie pour pouvoir continuer à faire ce que je fais avec autant d'amour pour les êtres qui m'entourent.
Oui, d'accord.
D'accord.
Je ne sais pas quoi vous dire, j'avais besoin de...
De parler.
Tout ce que je voilà, c'est juste.
Mais vous avez bien fait de nous appeler.
Je réécouterai ça sûrement dans demain, après-demain, quand je trouverai un petit moment ou la nuit en podcast, juste pour la douceur de votre voix et effectivement des choses que vous m'avez dites. Et comme j'avoue, je parle beaucoup, mais je suis désolée. Hein.
Ne vous excusez pas, vraiment. Ça. La Libre Antenne, c'est votre émission. Hein, je le répète, on est là pour vous écouter et parfois vraiment, c'est l'émission parfois qui sauve, vraiment, on a beaucoup d'auditeurs qui nous disent merci, donc voilà, il faut continuer.
Oui, mais vous jouez un rôle hyper important parce que vous déployez un éventail médical, l'aspect vraiment purement psychologique est hyper important, l'écoute, la gentillesse, donc le côté amical aussi, ça comble, enfin c'est pas que ça comble, c'est pas du bouche-trou, c'est que moi la Libre Antenne, c'est juste pas possible de m'en passer, quoi.
Eh ben merci.
Voilà. Mais c'est vrai, et votre douceur, à vous, tous vous êtes bien, évidemment, ceux qui en sont venus, repartis, et ceux qui sont actuellement. Mais comme beaucoup l'ont dit, j'avoue que la douceur de votre voix, quand on est en manque de sa maman, je suis désolée à mon âge, mais ça fait du bien, voilà.
Merci beaucoup Karen, et surtout prenez soin de vous.
C'est promis, je vous embrasse.
Moi aussi.
Faites juste un bisou pour mon papa, comme ça, si je fais écouter la fin demain. Pour
oui, comment s'appelle votre papa?
Franck.
Eh bien, Franck, je vous embrasse. Et vous avez une fille formidable.
Il est extraordinaire. Non, non, c'est lui qui l'est. Merci beaucoup et excusez-moi tous les auditeurs pour la longueur.
Au revoir.
Au revoir. Merci, Salah.